Bonjour à tous.
Voilà, c'est bien, il va fort, on va bien m'entendre aujourd'hui. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes prêts pour entendre la parole de Dieu. C'est un message que j'avais déjà depuis longtemps sur le cœur. Ça fait peut-être 2-3 semaines que j'avais ce message-là sur le cœur. Et puis, un jour à la prière, on a lu exactement le même passage. Le passage que je vais vous partager aujourd'hui, le même passage a été lu à l'église, enfin à la prière, et ça parlait de l'unité, de l'amour que nous devons avoir dans les cœurs et aussi des ministères. Et je pense que c'est un sujet qu'on a besoin de se rappeler ici dans l'église aujourd'hui, c'est ce à quoi nous sommes appelés, l'unité. Nous devons être un corps uni, rempli d'amour les uns pour les autres. Et aussi nous devons nous rappeler quel est le but du ministère, pourquoi est-ce que je suis appelé à servir dans l'église. Et je pense que c'est vraiment un temps où Dieu veut nous parler par rapport à ça, peut-être avertir, parce que voilà, si Dieu nous demande « ayez l'amour les uns pour les autres », peut-être que justement, s'il nous demande de l'unité, peut-être qu'il sait qu'il y a un danger à ce niveau-là, peut-être qu'il y a des frictions, des choses comme ça. Et donc je pense que c'est un thème adapté, pourquoi ? Parce qu'à l'approche des fêtes aussi, toujours quand il y a des événements, c'est le moment où nous avons besoin de nous rappeler pourquoi est-ce que nous servons Dieu. Et aussi, c'est des moments où nous avons besoin de nous rappeler l'unité, car c'est le moment où on commence à servir, etc. Peut-être qu'on est sous le stress, qu'il commence à avoir des frictions, et c'est là que nous sommes appelés à vraiment refléter le caractère de Dieu. Alors aujourd'hui, il y aura déjà beaucoup de lectures, il y aura pas mal de lectures, mais bon, comme je sais que vous aimez bien tous la parole de Dieu ici, vous êtes friands de la Bible, vous allez vous réjouir aujourd'hui, parce qu'il y aura beaucoup de lecture. Et alors, pour que ça puisse peut-être vous aider un peu sur comment je vais procéder, on va dire aujourd'hui, c'est je vais lire le texte, on va interpréter, puis après on passera dans l'application, même si dans l'application je rajouterai des passages, mais ces passages sont tellement explicites qu'ils parleront d'eux-mêmes, et je pense que vous comprendrez l'application tout de suite. Alors on va lire dans Éphésiens, chapitre 4, du verset 1 à 6. Du verset 1 à 6, puis on continuera après la suite, mais là c'est la première partie. La première partie, j'ai divisé le passage d'Éphésiens 4 en deux parties, parce que je vais lire du verset 1 à 16, mais là on va lire du verset 1 à 6. Alors je vais commencer la lecture. Alors, moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Soyez toujours humbles, aimables et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même, Dieu vous a appelé à une seule espérance lorsqu'il vous a fait venir à lui. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, qui agisse par tous et qui est en tous. Amen. Il y en a qui ne disent pas amen parce que peut-être qu'ils n'ont pas encore compris. C'est pourquoi on va voir ce que ça veut dire. Mais je pense que c'est assez simple. Là, c'est Paul qui s'adresse à l'église. On pense l'église d'Éphèse, peut-être pas, parce que finalement, on se rend compte qu'il est mis, quand il écrit « moi, apôtre, Paul, à Éphèse », L'ajout Éphèse a été ajouté plus tard dans les manuscrits, mais c'est possible que ceux qui l'ont rajouté savaient, eux, que c'était à Éphèse. Mais on pense que c'est plutôt une lettre circulaire, justement, parce que les thèmes de l'épître sont assez général. Le thème de l'épître est assez général, donc il peut très bien s'adresser à plusieurs églises de cette région-là, justement, ce qui expliquerait pourquoi, justement, c'était pas dans les manuscrits à Éphèse. Mais bon, voilà, petite parenthèse. Et donc Paul leur écrit et dit « Moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. » Ici, Paul il s'adresse avec humilité, donc dans ce qu'il va demander ici à l'Église, lui-même il vient avec l'humilité « Moi prisonnier du Seigneur. » Bon, il faut savoir qu'à ce moment-là, il écrivait, il était aussi probablement en captivité, donc en prison. Mais aussi, il vient quand même, il était certes en prison, mais il vient avec humilité. Il aurait pu dire, moi, apôtre, moi, le grand apôtre des nations. Non, il vient ici, il dit, moi, prisonnier. C'est vrai que des fois, il va utiliser son titre d'apôtre pour dire des choses avec autorité. Mais là, il vient avec humilité. Et il commence à dire, comportez-vous de manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Et d'où vient cet appel ? Dans l'Épître aux Éphésiens, on peut voir dans le chapitre, on ne va pas lire parce que c'est tout le chapitre, mais dans le chapitre 2 du verset 1 à 10, c'est là qu'on voit d'où vient cet appel. En tant que chrétien, on a tous reçu un appel, c'est notre identité. Quand j'ai même ma foi en Christ, j'ai reçu une identité, ce que je dis à chaque message, je le dis. Mais quand je suis chrétien, quand je mets ma foi en Dieu, j'ai une nouvelle identité, je suis un fils de Dieu et je dois commencer à vivre comme Christ. C'est comme ça que je dois vivre. Et donc cet appel, il est lié à notre union à Christ. C'est notre union à Christ qui est faite par le sacrifice de Dieu et la foi que nous mettons en lui. Alors on peut peut-être lire au chapitre 2 du verset 8 à 10. Qui dit ceci, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Je vais attendre. Éphésiens 2, versets 8 à 10. Alors, voilà ce qu'il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous aurez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Donc on voit que nous sommes rachetés par grâce et que dans ce rachat, nous avons reçu un appel. Dieu a préparé des œuvres d'avance pour nous, pour que nous les pratiquions et il va dire différentes choses. Mais là, on va se focaliser sur quel est l'appel que Paul dit dans le chapitre 4. Et ici, il dira du verset 2 à 3. Donc au chapitre 4, pour revenir au chapitre 4. Donc il dit, au verset 1, il dit « Moi, prisonnier, à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment de vous conduire de manière digne de l'appel qui vous a été adressé. » Donc maintenant, on a vu quel est l'appel. Je suis racheté et ce rachat me demande de vivre de manière digne d'un appel. Et cet appel, on va voir quel est-il. Il dit « Soyez toujours humbles, aimables et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. » Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Donc cet appel, ça pourrait être plein d'autres choses, mais là ici il focalise sur ça, il se focalise sur soyez humbles, ayez de l'amour, soyez patients, supportez-vous les uns les autres. Ici le supporter en fait, il peut avoir deux sens, ça peut soit avoir le sens de vraiment supporter, donc se porter les uns les autres, ou alors se supporter un peu dans le sens péjoratif, je le supporte, il m'énerve, mais je le supporte. Et le sens, en fait, on peut réellement choisir l'un ou l'autre. Moi, je pense que ça me semblerait plus logique de vraiment de dire avec amour, supportez-vous les uns les autres, portez-vous, soyez vraiment, supportez les plus faibles. Mais on peut aussi penser, voilà, supportez-vous. Et c'est vrai qu'en tant que chrétien, des fois, il faut qu'on apprenne à supporter parce qu'on a tous des caractères différents, des ambitions différentes. Et je pense qu'en tant que corps du Christ, il y a cet appel à Dieu de s'efforcer, de s'efforcer de se supporter. Et voilà, il continue, il dit « Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix. » Et il y a plein de moyens pour ça, mais c'est vraiment un travail qu'en tant que chrétien, on peut tellement être vite blessé par les paroles de personnes et tellement vite avoir de l'amertume. Et là, on va voir comment est-ce que je peux faire pour conserver cette unité, parce que c'est vraiment, ça fait partie de notre appel en tant que chrétien, c'est de rester unis. Même Jésus lui-même, quand il priait, avant d'être crucifié, il priait pour que ses disciples soient unis. Il priait, Seigneur, permets-leur d'être unis, qu'ils ne fassent qu'un. Et je pense que c'est vraiment, l'unité en tant que chrétien est primordiale si on veut que l'Église avance. Donc, on est toujours dans l'interprétation, on verra plus tard comment faire pour s'efforcer de garder cette unité. Alors, qu'est-ce qui motive cette unité ? On peut aller dans le verset 4 à 6. Il dit ceci. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même, Dieu vous a appelé à une seule espérance lorsqu'il vous a fait venir à lui. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous qui règne sur tous, qui agit par tous et qui est en tous. Donc voilà, il y a quoi qui dit ? Un seul corps, un seul esprit. Dieu vous a appelé à une seule espérance. Tout ça, ça doit nous unir, ça doit nous diriger vers un but, vers Dieu, vers son caractère, vers ce que lui, il veut. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Tout va dans le même sens. Nous devons aller tous vers Dieu, vers une chose. Il y a cette unité dans le corps du Christ qui doit nous motiver. Il y a une seule chose et nous devons vivre pour une seule chose, c'est pour Dieu. Alors, l'application, donc, comme on l'a dit, nous devons avoir l'humilité. Je pense vraiment que c'est important qu'en tant que chrétien, nous ayons l'humilité. Il faut considérer, il y a même un passage qu'on en a parlé tantôt ce matin, mais considérer son frère au-dessus. Et des fois, en tant qu'être humain charnel, on a besoin des fois de se mettre au-dessus pour se glorifier, pour se sentir bien. Mais la Bible, elle te dit, élève ton frère. Parce que finalement, si tu élèves ton frère, c'est là que tu te sens bien aussi. Si Dieu nous demande ça, c'est parce que c'est bon, justement. Élevez ton frère, élève-le, donc encourage-le dans ce qu'il fait. Alors, il dit aussi, supportez-vous. Comme j'ai dit, il faut supporter, aider les plus faibles. Je ne sais pas, ça peut être lui montrer de l'amour, prier pour lui. Parce que vous savez, quand on prie pour les frères et sœurs, Dieu nous parle. Si on devait juste prier comme ça, religieusement, Seigneur, je te prie pour Martine, tu vois sa maladie, amen. Des fois, est-ce qu'on ne prie pas un peu comme ça? On prie, moi, je ne sais pas, des fois, on prie un peu religieusement. Seigneur, je te prie pour tel malade, tel malade, tel malade, tel malade. Et puis, j'ai fait ma bonne action. Mais prions, quand on prie pour un frère, prions vraiment pour que Dieu agisse et que Dieu nous révèle. Et ça fait partie de supporter les uns les autres. Et il y a la prière, il y a plein d'autres choses, il y a le téléphone, on peut passer du temps avec aussi, voir un chrétien. Des fois, le nombre de chrétiens qui, simplement d'avoir cette relation fraternelle, ça les aide à s'accrocher à l'Église aussi. Ça fait partie de l'unité, genre s'il y a vraiment cette cohésion entre nous, s'il y a de l'amour entre nous, si par exemple je vois que mon frère va pas bien, je lui dis viens, on va aller se promener ou on va aller manger un bout, on va aller boire un verre, quelque chose comme ça. Et puis après tu peux prier avec lui et ça peut lui faire du bien. Et lui qui peut-être était pas bien, s'est dit moi j'en ai marre d'aller à l'église, je quitte l'église ou j'en ai marre, je me sens plus à ma place. Peut-être que juste par cette action-là, tu vas l'aider à s'accrocher à l'église. Et je pense en tant que chrétien, on est appelé à poser toujours des actes comme ça. À poser des actes pour se supporter les uns les autres, pour vraiment que chacun d'entre nous, nous restions unis au cœur. Si on voit quelqu'un qui s'éloigne, supportons-le, ramenons-le à Christ. Alors maintenant, il y a aussi supporter de manière péjorative. Mais là, je crois qu'il faut travailler son cœur. Il faut vraiment travailler son cœur. Quand je suis blessé, des fois, soit il faut aller en parler à la personne, ou soit des fois, il faut prendre sur soi. Des fois, tu dis, le gars il t'a énervé, tu vas dire vraiment tu m'as énervé là. Des fois il faut le dire, mais des fois si tu le fais, tu risques de faire pire. Tu risques de faire monter les choses. Je pense que des fois aussi quand il faut aller parler à quelqu'un, c'est bien de demander à Dieu, Seigneur, quand est le temps, quelle est la manière, est-ce qu'il faut vraiment que je le dise? Parce que si ça se peut, la personne n'est pas prête, parce que la personne peut-être est remplie aussi d'amertume contre toi, tu vas aller le trouver et c'est pas le moment. Donc des fois simplement prie quand une personne t'a blessé. Est-ce que je dois dire, ok, c'est bon, je passe à côté, je fais ma vie et je continue à aimer mon frère, ou je continue après, je vais voir un ancien, je dis, est-ce que tu penses que je dois aller trouver cette personne? Voilà. Je pense que c'est une bonne chose aussi de demander ces conseils-là. Et donc, comment s'efforcer de garder cette unité? Nous supporter, vraiment se porter les uns les autres. Et je pense vraiment que c'est quelque chose que Dieu veut pour cette Église, que c'est vraiment le temps de veiller à ça, de veiller à notre unité. Et il y a d'autres choses qui sont importantes, comme on l'a dit, se supporter parce que peut-être on est blessé, il faut apprendre vraiment à pardonner et à ne pas garder des racines d'amertume. Je crois vraiment que Dieu veut nous parler. Alors dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, du verset 14 à 15, il nous parle des racines d'amertume et je pense que ce passage est vraiment parlant et nous devons veiller à ça, veiller plus que toutes choses parce que l'amertume, il n'y a pas que toi que ça contamine toute l'Église. C'est vraiment ce qu'il dit. Il dit, faites tous vos efforts, il dit encore la même chose que Paul, mais d'une manière différente, faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et pour mener une vie de plus en plus sainte, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc il dit comme Paul, faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde. Verset 15, veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. Et il dit que personne ne passe à côté de la grâce, qu'aucune racine d'amertume ne pousse. Donc je pense que des fois, quand on garde l'amertume sur une personne, quand on garde l'amertume contre un frère, on se prive de la grâce. Je ne pense pas qu'on se prive du salut spécialement, mais on se prive de grâce de Dieu. Il y a des fois, on dit pourquoi Dieu ne me parle pas, pourquoi? Parce que des fois, tu gardes l'amertume. Ton cœur est tellement rempli d'amertume que tu ne sais plus entendre la voix de Dieu. Et il y a des fois, c'est comme s'il y a un bouchon. Vous savez, des fois, il y a trop de... Comment on dit? Les artères sont bouchées, il y a trop de gras. Mais de l'amertume, c'est comme ça, des fois. Ça bloque la bénédiction. Alors, il dit aussi, veillez à ce qu'il n'y ait pas d'amertume. Pourquoi? Parce que ça peut causer des rejetons et que ça contamine plusieurs personnes. Il ne dit pas ça comme ça, mais ça dépend des versions. Il dit qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. C'est pour ça que je pense que quand on a de l'amertume directe, il faut bannir ça. Il faut essayer de tout de suite traiter le problème. Dès que l'ennemi essaie de mettre une graine d'amertume, tout de suite, je dois essayer de enlever ça. Tu veux me mettre des mauvaises pensées? Je dis non. Parce que sinon, après, ça commence. Et t'as pas vu tel frère, il m'a dit ça, et blablabla, et tchik-tchak, et blablabla, comme ça. Et puis ça commence. Et puis, tu sais ce qu'il m'a dit, un tel? Il y a un tel qui lui a dit ça, franchement, c'est un grave celui-là, et tout ça. Et ça commence comme ça, et blablabla. Et on entretient des trucs. Et puis, on a dit ça dans le dos, de la personne, puis on est devant lui. Et on sait qu'on a dit ça, et on se sent pas bien devant cette personne. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut surveiller nos cœurs, surveiller tout ça. L'amertume, c'est vraiment un engrenage. Quand on rentre dedans, si on ne dit pas stop, on va toujours plus profond. Ça creuse, les racines vont toujours de plus en plus profond. Et puis après, il faut que Dieu fasse un travail. Et ce travail, parfois, il est pénible, il est dur quand Dieu doit faire ce travail. C'est pourquoi il faut veiller sur son cœur, veiller à ça. Ça, c'est la deuxième partie. C'est un passage, on peut voir Proverbe 4, 23, qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et donc, il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas d'amertume, mais où vient l'amertume? Dans notre cœur. Où est-ce que vient l'amertume? C'est là. Il est dit « Garde, veille, protège plus que toute autre chose ton cœur, car c'est de là que viennent les sources de la vie. » Et je pense que c'est vraiment important. Le cœur, c'est pas juste « Garde tes émotions ». C'est pas juste « Garde tes émotions » parce que des fois, tes émotions peuvent être contraires à ce que tu penses. Non, le cœur dans la Bible, ça parle de mes pensées, ça parle de ma manière d'agir, mes pensées qui m'amènent à une manière d'agir. Et je dois vraiment, c'est pour ça qu'il faut garder son cœur et ses décisions. Quand il dit garde ton cœur, ça dit garde tes pensées, garde-les alignées à Dieu, garde-les alignées dans la volonté et continue de marcher. Et le cœur, c'est vraiment intimement lié à nos pensées et à la marche chrétienne. À un moment donné, il y en a qui avaient dans leur cœur, ils avaient menti, je ne sais plus, Ananias et Saphira, je pense, qui avaient menti, qui ont dit qu'ils avaient donné tout leur bien, mais ils avaient gardé la moitié. Et puis Pierre dira, qu'avez-vous projeté dans votre cœur? Qu'avez-vous projeté dans votre cœur? Mais là, ils avaient déjà fait. Donc ça est bien la preuve que ce qu'il y a dans le cœur, c'est dans les pensées, les décisions. C'est pour ça qu'il faut veiller à ces décisions. C'est super important. Donc comme j'ai dit, ce n'est pas juste les émotions, il faut veiller que l'amertume ne rentre pas entre les uns et les autres. Et comme j'ai dit, des fois, on se dit, mais pourquoi je passe par un désert? Pourquoi je suis dans ce désert? Pourquoi Dieu ne me parle pas? Pourquoi ça ne va pas dans ma vie? Peut-être parce que tu ne gardes pas ton cœur et tu n'es pas dans la direction de Dieu pour ta vie. Des fois, tu te dis, pourquoi je ne vois pas les bénédictions de Dieu? Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi Dieu ne me parle pas? Mais parce qu'il faut que tu gardes ton cœur et que tu commences à agir vraiment dans la volonté de Dieu. Là, on n'est plus dans le domaine de l'unité, mais on est dans le domaine du cœur. Et je pense que c'est quelque chose quand même que Dieu m'avait aussi demandé, que j'avais vraiment à cœur de vous partager. C'est garde ton cœur par rapport à l'amertume, mais même dans tes voies. Parce qu'il dit comme ça, le passage dit, car de lui viennent les sources de la vie. Car de lui viennent les sources de la vie. Et des fois, tu dis, mais je suis dans un désert, ça continue. Mais des fois, parfois, il ne faut pas toujours... Je pense que papa avait dit ça, des fois, ça ne va pas, mais on continue. Ça ne va pas, on continue. Comme ça, des fois, on a nos habitudes, on continue. Mais si voilà, c'est ça qu'il avait dit. Mais on continue dans la même recette. On continue dans une recette qui ne fonctionne pas et on ne change pas la recette. Voilà, c'était ça. Et je pense ça nous a parlé aussi à nous en tant qu'église, en tant que chrétien. C'était adressé à tout le monde, mais c'est vrai, des fois, on continue la même recette, et la même recette tout le temps, et ça ne fonctionne pas. C'est toujours pas bon. C'est parce qu'il faut changer la recette. Et la recette, c'est garde ton cœur, commence à faire la volonté de Dieu, et tu vas voir, ça va commencer à devenir bon. La vie chrétienne va commencer à devenir meilleure. Et je pense vraiment, c'est hyper important. Donc si peut-être, des fois, tu te dis, pourquoi je suis dans le désert? Pourquoi je ne vois pas Dieu agir? Mais peut-être parce que tu n'as pas pris la bonne recette. Parce que dans ton cœur, peut-être, tu ne fais pas ce que Dieu te demande. Tu fais à gauche, Dieu, à droite, ma vie. Allez, toujours comme ça, à gauche, à droite, et jamais pleinement dans la volonté de Dieu. Et je pense que ça, c'est pas que Dieu va pas nous bénir, il peut nous bénir quand même, mais on n'est pas pleinement, on sera jamais pleinement dans sa bénédiction, jamais pleinement dans sa volonté. Et ça, je pense que c'est important de garder son cœur. Alors, pour en revenir à nos moutons, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Garder un cœur pur, pardonner, surveiller nos paroles, je l'ai déjà dit, mais on va aller dans Jacques 3, 13, 18. Et après, on est jusqu'au chapitre 4, 1. Enfin, à partir du verset 13, voilà. OK. Y a-t-il parmi vous quelqu'un de sage et d'expérimenté, qu'il en donne la preuve par sa bonne conduite, c'est-à-dire par des actes empreints de l'humilité qui caractérisent la véritable sagesse. Mais si votre cœur est plein d'amère jalousie, si vous êtes animé d'un esprit querelleur, il n'y a vraiment pas lieu de vous vanter, ce serait un défi à la vérité. Une telle sagesse ne vient certainement pas du ciel, elle est de ce monde, l'homme livré à ses seules ressources, elle est démoniaque. Car là où règne la jalousie et l'esprit de rivalité, là aussi habite le désordre et toutes sortes de pratiques indignes. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est en premier lieu pure. De plus, elle aime la paix, elle est modérée et conciliante, pleine de bonté, elle produit beaucoup de bons fruits, elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Ceux qui travaillent à la paix sèment dans la paix une semence qui aura pour fruit ce qui est juste. Et puis après, chapitre 4, d'où proviennent les conflits et les querelles entre vous ? N'est-ce pas de vos désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous ? Et donc c'est vraiment quelque chose qui m'a... Quand j'ai lu ce passage-là, je m'apprêtais pas à lire ça, mais hier, Luc avait partagé là-dessus, je me suis dit, tiens, c'est bien, ça va vraiment dans le sens de mon message. Et j'ai vu des choses qui frappent comme ça. Si votre cœur est plein d'amère jalousie, si vous êtes animé d'un esprit querelleur, il n'y a pas lieu de se vanter, ce serait un défi à la vérité. Est-ce que des fois, on n'a pas cet esprit querelleur comme ça ? Est-ce que des fois, on ne dit pas des mauvaises paroles sur certaines personnes ? Est-ce que des fois, on n'aime pas comme ça ? Il y en a, des fois, on aime bien. On aime bien commencer à faire des petits commères comme ça, à parler sur... des fois, on aime bien, on a un peu cette nature comme ça. Et ça... Qu'est-ce que Jacques dit ? Il dit carrément que c'est démoniaque, c'est diabolique, ça ne vient pas de Dieu. Et c'est vrai, si ça ne vient pas de Dieu, on peut vraiment dire que c'est diabolique parce que ça va dans le sens contraire de Dieu. Dieu, ce qu'il veut, c'est que tu encourages ton frère, qu'il y a l'unité. Et des fois, dans l'Église, on se querelle. Et vous avez vu, jusque maintenant, je n'ai même pas cité tous les passages qui parlent de conflit. Donc ça veut dire que l'Église n'est pas un lieu utopique où tout est rose, tout va bien. Ça veut dire qu'évidemment, il y a des conflits. Des querelles dans l'Église, il y en a. Et je pense que Dieu nous encourage vraiment à veiller et à avoir de l'amour les uns pour les autres. Je pense dans ce passage aussi, il parle il dit comme ça, nos conflits deviennent doux de nos envies. Des fois, on veut que ça fonctionne à ma manière, à l'Église. Ça doit fonctionner comme ça, parce que j'ai raison, et c'est comme ça. Et c'est, mais des fois, est-ce que j'ai raison ou est-ce que c'est pas plutôt mes envies dans mon cœur ? Il faut faire la part des choses. Peut-être que des fois, on a raison. Ça peut arriver. Mais des fois, il faut écraser. Des fois, il faut dire, bon, ça va, tant pis. Parce que des fois, même si on a raison, il y a des fois, ça ne va pas passer. Des fois, ce qu'on veut faire, ça ne va pas. Et bien, si ça ne va pas, tant pis, ce sera la prochaine fois. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à avoir l'humilité. L'avoir l'humilité dans ce qu'on veut, dans le service, l'humilité dans ce qu'on veut faire. Et je pense que c'est vraiment important, tout ça, de voir est-ce que ce que je veux faire, est-ce que ça vient de ma chair, est-ce que c'est pour plus tard, est-ce que finalement c'est est-ce que ça vient de Dieu. Mais si ça vient de Dieu, un jour ça s'accomplira. Si ça vient de Dieu, ça sert à rien de s'énerver et de dire mais ça doit être comme ça, comme j'ai décidé, j'ai raison. Et des fois on est comme ça dans notre cœur. Je sais que des fois je suis comme ça, tout le monde, on est un peu comme ça, on a envie que ça fonctionne à notre manière. Mais il faut demander à Dieu, est-ce que ma manière peut être bonne, mais la manière de l'autre aussi. Il faut apprendre à travailler ensemble. Et je pense que c'est vraiment important que ça pour tout la fête de Noël, les ministères qu'on va faire, les ministères qu'on exerce dans l'Église, dans tout, dans la louange, dans dans vraiment tout ce qu'on fait, c'est vraiment important d'avoir de savoir prendre sur soi. Donc voilà, je pense que c'est super important et ça nous dirige dans la deuxième partie d'Éphésiens sur les ministères. C'est la deuxième et la dernière partie sur les ministères. Pourquoi, à quoi servent les ministères? Pourquoi je suis appelé à servir? Est-ce que c'est pour me glorifier, me sentir bien? Est-ce que c'est pour m'élever au-dessus de l'autre? Ou est-ce que c'est pour autre chose? Alors, on va lire à partir du verset 7 du chapitre 4 d'Éphésiens. Bon, je ne sais pas si c'était clair. Chapitre 4, verset 7, jusqu'au verset 13. Alors là, il parle des ministères. Donc, il a parlé de l'unité. Paul a parlé de l'unité, etc. On doit conserver cette unité. Et il va dire aussi que le corps du Christ est uni, forme qu'un. Mais cependant, il y a de la diversité dans le corps du Christ. Comme j'ai dit, on a des envies différentes, on a des dons différents, on est appelé à des choses différentes. Et voilà ce qu'il dit. Cependant, chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que Christ lui donne dans son œuvre. Alors, ici, quelle grâce. Donc, cependant, chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que le Christ lui donne dans son œuvre. Ici, je ne pense pas que c'est la grâce du salut. Ça n'aurait pas de sens. Ça n'aurait pas de sens à mes yeux. Ici, on parle de la grâce que Dieu te fait en te donnant un service ou en te donnant un don, un appel. Donc la traduction ici, Summer, elle est orientée vers ça. Il y en a qui pourraient traduire dans l'autre sens, mais pour moi, ça ne ferait vraiment pas de sens. Alors, ensuite, donc, il dit, voilà, chacun a reçu un don selon la mesure de Christ. Il ne dit pas la mesure, mais qui lui donne, selon la part, mais l'autre traduction dirait la mesure. Donc voilà, Dieu donne à qui comme il veut. Dans Corinthiens aussi, la même chose sera là, sauf que là, on parle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui distribue les dons. Mais ici, là, il parle de Christ qui donne les dons pour l'Église. Alors, on va aller au verset 8 et à 9, on continue. C'est bien ce que déclare l'Écriture. Donc, il a donné des dons, etc., à chacun dans son œuvre. Il est monté sur les hauteurs. Il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie « il est monté » ? Cela implique qu'auparavant, il est descendu jusqu'en bas, c'est-à-dire sur la terre. C'est lui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir l'univers entier. Donc là, il va prendre un passage de la Bible, il va citer un psaume pour dire que Dieu a fait des dons à chacun d'entre nous. Alors, quand on lit ce passage-là, au début, on ne comprend rien. Si vous comprenez, ben, vous êtes fort. Moi, au début, je n'ai rien compris. C'est pour ça que je me suis aidé d'un commentaire biblique. Parce qu'il y a des passages comme ça. Si on ne lit pas un commentaire à côté, on risque de ne pas comprendre. Et là, c'est plus compliqué, justement. Donc là, il cite un psaume qui dit « Il est monté sur les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. » Et ce psaume-là, il va l'appliquer à Christ, qui, justement, a été élevé, a emmené les captifs. En fait, c'est quand il a pris le péché, quoi. Par sa mort, il a pris le péché, il a été glorifié, il a emmené les captifs, il est monté au ciel et il a fait des dons aux hommes. Donc, on reçoit, les dons qu'on reçoit, c'est les dons du Christ exalté, du Christ glorifié. Parce qu'il dira, or, que signifie « il est monté » ? Donc, il explique le psaume, son interprétation du psaume qu'il applique à Christ ici. Il dit « il est monté ». Cela implique qu'auparavant, il est descendu jusqu'en bas, c'est-à-dire sur la terre. Donc ici, il parle du Christ. S'il est monté, ça veut dire qu'il était glorifié, ça veut dire qu'il est descendu. Donc descendu, ça veut dire qu'il est venu sur terre. Il a quitté son trône de gloire. Mais ça parle aussi de sa mort, de sa mort, de sa résurrection. Cela implique donc qu'auparavant, il est descendu jusqu'en bas, c'est-à-dire sur la terre. Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir l'univers entier. Donc il a été exalté. Donc les dons que nous avons, c'est les dons de Christ glorifié. Voilà, comme ça peut aider peut-être à comprendre plus ce passage-là. Et je pensais que c'était bien aussi de comprendre le mieux la Bible quand on la lit, c'est important. Et on va peut-être souligner un petit passage croustillant quand même de ce passage-là. Je voulais souligner ça. Il dira... C'est aussi celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir l'univers entier. Et donc, si on vous dit « Christ n'est pas Dieu », tu lui dis « Non, Christ est Dieu, il est divin. Pourquoi ?» Pourquoi c'est aussi celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir
l'univers entier. Qui remplit l'univers entier si c'est Dieu ? C'est Christ. Donc ici, il souligne encore la divinité de Christ. Donc voilà, c'est une petite parenthèse. Mais je pense que c'est important, peut-être tout le monde ne sait pas ça, mais c'est important de savoir que Dieu est parfaitement, était parfaitement homme, parfaitement Dieu. Et Jésus. Et donc voilà, c'est important. Alors, continuons donc. Dieu, les dons que nous avons reçus, c'est des dons que Christ nous a faits. Passons au verset 11 et il dit voilà ce qu'il nous a donné. Et c'est lui qui a donné, au verset 11, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et enseignants. Donc ici, il parle des dons de la parole, des ministères. Est-ce que c'est une liste exhaustive ? Je ne pense pas que ça prend tous les ministères, non. Ça ne prend pas tous les ministères, mais ici, on voit bien que c'est des ministères qui se réfèrent plutôt à des responsables, prophètes, évangélistes. Les prophètes, à l'époque primitive, c'était des responsables, en fait, qui prophétisaient aussi, mais ils avaient une responsabilité. Les apôtres, les évangélistes, voilà, etc. Et donc, il parle des responsables. Et quel est le but ? Quel est le but, verset 12, de ces dons ? Quel est le but ? Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de l'édification du corps du Christ, afin que nous parvenions tous ensemble dans l'unité, dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui vient du Christ. Donc pourquoi est-ce qu'on a le ministère ? Voilà pour finalement tout ça, pour ça. Tout ça pour dire pourquoi est-ce que Dieu nous a donné des services ? Pourquoi est-ce que c'est Dieu qui nous a fait des dons ? C'est pour l'édification du corps du Christ. Et ces dons-là que les apôtres, tout ça, ils sont là pour finalement former les chrétiens à ce qu'ils soient aptes, rendus aptes au ministère. Mais ce qu'on a vu, c'est qu'on a aussi vu qu'il y a une diversité. Il y a une diversité dans les dons et c'est important de savoir quel est mon appel, quel est ce que je dois faire. Mais aussi, apprendre à quel est mon appel et qu'est-ce que Dieu veut que je fasse avec cet appel-là. Désolé, je suis un peu perdu. Donc... Donc pour un, voilà, c'est le but, c'est l'édification du corps du Christ. Donc comme j'ai dit, c'est pas pour me glorifier. Il y a des dons, il y a différents dons, diversité de dons. Et cette diversité de dons, à quoi elle sert ? Est-ce qu'elle sert à la division ? Est-ce qu'elle sert à ma glorification personnelle ? Non. Cette diversité, encore une fois, toujours dans le cadre de l'unité, elle sert à l'édification du Christ. Elle sert à ce que l'unité soit là toujours. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose que Dieu veut nous rappeler. Maintenant, passons peut-être un peu dans l'application. Je pense que de là, il est important de savoir que chacun doit prendre sa place. C'est aussi ça. Il ne doit pas y avoir les conflits. Il ne doit pas avoir « moi, je veux tel ministère » alors que moi, Dieu m'appelle à ça. Non, mais il est aussi indispensable que chacun prenne sa place. Ça fait partie de notre appel de Dieu, c'est d'accepter ce ministère et de construire le Christ. Parce que des fois, le corps n'avance pas. Pourquoi ? Parce que chacun ne prend pas sa place. Et je pense que c'est vraiment important. Certains chrétiens vivent une vie de frustration parce qu'ils ne répondent pas à l'appel de Dieu. Ils sont frustrés tout le temps dans la vie chrétienne. Ils ne voient pas de fruits, etc. Mais parce qu'on ne rentre pas pleinement dans l'appel de Dieu. Parfois, on est frustré parce que Dieu nous appelle à quelque chose et on résiste, et on résiste, et on résiste, et on résiste. Et on est frustré. Et je vous encourage vraiment à ne pas résister, mais à faire ce que Dieu te demande de faire. Peut-être c'est des changements, de faire des décisions dans ta vie, des changements de vie, abandonner certaines habitudes, abandonner certains péchés, pour vraiment te focaliser dans ton ministère. Et tu vas voir que Dieu va t'élever, Dieu va faire quelque chose de grand dans ta vie, Dieu va faire en sorte que ce ministère, ça aide à l'avancée de l'Église. Et il y en a d'autres, donc il y en a qui résistent, alors que finalement ça peut leur permettre de aussi s'épanouir, même si ce n'est pas le but premier. Mais je pense que vraiment le ministère peut te donner une joie et un épanouissement autre que tout ce que le monde peut t'apporter. Et il y en a d'autres, à l'inverse, qui cherchent le ministère pour s'épanouir, et pour être vu, pour se mettre au-dessus. Et là, ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment, il faut qu'ils se rappellent que le but de mon ministère n'est pas mon épanouissement, mais le service. Et ça, je pense, c'est très important. C'est le service. Des fois, il y en a qui veulent servir pour être les premiers, pour être au-dessus, pour diriger. Non, quand tu sers, ben justement, tu sers. Quand tu prends un ministère, c'est un truc de service. c'est pas pour dire, moi je veux, c'est pour diriger. Des fois, il y a des ministères que c'est des ministères de direction, donc forcément, ça implique une direction. Mais il y en a qui veulent, par exemple, juste parce qu'ils veulent diriger. Moi, je veux diriger, je veux avoir quelque chose. Mais non, c'est pas ça, c'est le service. Dans Matthieu 20, 26, mais pas besoin de, 20, 26, 28, pas besoin d'afficher. Jésus dira, quoi qu'il en soit parmi vous, au contraire, si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Donc je pense que c'est important, toujours le service, pourquoi je le fais ? Pour me glorifier, pour mon épanouissement, ou pour servir vraiment l'autre, pour élever l'autre. Donc voilà, je pense qu'il faut être des serviteurs et pas des compétiteurs, pas commencer à faire la compétition des autres. Et comme j'ai dit, des fois, il y a un ministère où Dieu nous appelle, par exemple, à faire la louange, et toi, tu te dis, non, moi, ce n'est pas la louange que je veux faire. Moi, c'est la prédication. Alors que Dieu te dit, ben non, fais la louange. Dis-moi, je veux faire la prédication. Dieu te dit, non, fais la louange. Et des fois, Dieu, il est l'architecte. Il dit toi, tu es la brique. Dieu te dit, mets-toi là. Et toi, tu veux te mettre à côté. Tu veux te mettre, il dit, va à gauche. Toi, tu vas à droite. Et des fois, on est comme ça. On est comme ça. Et je pense que ce n'est vraiment pas la volonté de Dieu. Si Dieu te dit, va à gauche, parce qu'il sait que si tu vas à gauche, c'est là que tu vas être utile, c'est là que tu vas peut-être, c'est peut-être là que ta pierre va supporter d'autres personnes. Si tu vas à droite, il y a déjà quelque chose, il y a déjà quelqu'un là qui porte d'autres personnes, tu ne serviras à rien. Et des fois, on veut un ministère, mais c'est peut-être pas le temps, c'est peut-être pas le moment, ou même Dieu a quelque chose d'autre pour toi. Et tant que tu restes dans cette frustration, tu vas être frustré parce que tu dis, Dieu ne m'utilise pas, mais parce que Dieu t'a dit d'aller à gauche et pas à droite. Et je pense que c'est vraiment important. Et je voudrais finir juste sur une image. J'aurais besoin d'un cobaye, si quelqu'un veut venir pour l'image. Je ne vais pas vous demander grand-chose de compliqué. C'est vraiment quelque chose. Ça pouvait être quelqu'un d'autre. Hein. Allô ? Cette compétition qu'il y avait entre les chrétiens, depuis toujours duré. Il y a la même chose. Il y avait eu la même chose à Corinthe, où ils cherchaient tous les dons les plus visibles, les plus extravagants. Ils parlaient en langue, ils cherchaient des choses comme ça pour être visibles. Et finalement, leurs dons amenaient à des divisions dans l'Église. C'est pour ça que Paul a dû rappeler le but des dons. Et je pense que dans l'Église ici, il est important qu'on se rappelle que les dons, ce n'est pas pour nous diviser, mais c'est pour s'aider. Il y en a qui prophétisaient peut-être à Corinthe pour dire pour se servir de leurs frères finalement. Il y en a aussi qui parlaient en langue pour s'élever parce que ça faisait beaucoup de bruit, etc. Et là, il va rappeler l'importance. Il va faire comme en Éphésiens, il va rappeler la diversité des dons. Et peut-être on va lire et puis après je pourrais utiliser mon cobaye. On va lire dans Corinthiens 12, 14, 31 et 13, 1. C'est le dernier passage. Après, voilà, vous aurez beaucoup de lectures à la maison si vous voulez. Ce n'était pas voulu d'avoir autant de lectures. Alors, il va encore parler de la diversité. C'est dans la 12, versets 14 à 31. Et la version, ce n'est plus la Semeur, mais c'est Louis II cette fois. Tu peux t'asseoir, Jean, je tape, ou si tu veux. C'est comme tu veux. Alors. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela ? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela ? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe ? Si tout était oui, où serait l'odorat ? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps ? Et des fois, on aspire tous à être la même chose, le même ministère. Mais il dit comme ça, maintenant, Dieu a placé chacun de ses membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps ? Si tout le monde faisait la même chose, comment le corps avancerait. Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut... on va passer cette partie-là. On va aller directement au verset 27 pour gagner du temps. Verset 27, il dit « Vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don de miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? » Il dira ceci, « Aspirez aux dons les meilleurs. » Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Et là, il va parler de l'amour. Et juste après ça, il dira « Aspirez aux dons les meilleurs ». Donc c'est vrai, il faut aspirer aux dons les meilleurs, mais aussi aspirer aux dons que Dieu m'a donnés. Et après, il dira « Mais je vais vous montrer une voie encore plus excellente. » Il va parler de l'amour. Il dit « Je peux prophétiser, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je peux donner ma vie, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Donc en fait, le don, pour conclure, le don par excellence, c'est l'amour. Et donc, j'aurais besoin de Jean. Et désolé, Jean. Hein. Non, c'est de l'eau bonne, hein, c'est de la bonne eau. J'aurais juste besoin de Jean, voilà. Mais je ne vais pas te mouiller, Jean. Promis, je ne vais pas te mouiller. Tu peux avoir confiance. Donc voilà, on va dire ça, c'est le corps du Christ. Le corps du Christ, et ça, c'est la main. Voilà, la main de Jean. Et toi, tu es la main. Admettons, tu es la main, mais tu dis non, je veux être la tête. Je veux être la tête. Et tu te bats avec la tête pour être la tête. Et l'autre, il y a encore une autre main qui dit, et Dieu veut que tu fasses la fonction de la main. Tu dis non, je suis la tête. Je suis la tête. Et du coup, Jean attrape le gobelet. Il ne serait pas. Et des fois, c'est comme ça. Il y a la bénédiction, on va dire. Il y a la bénédiction, le Saint-Esprit veut rafraîchir son Église au travers de la main. Mais toi, tu veux être la tête. Et peut-être que Dieu, il y a une place, tu te dis, non, c'est trop petit, ça ne vaut, cette place-là, c'est trop minable, je n'ai pas envie. Mais alors que tu ne sais pas que c'est cette fonction-là qui va permettre à tout le corps d'être hydraté, d'être ressourcé. Mais si la main commence à dire, ok, j'accepte ma place. Si tu commences à dire j'accepte ma place et que tu prends, voilà, tu peux prendre le verre et voilà, tu commences à faire ton ministère, tu commences à servir maintenant, le corps du Christ va pouvoir être béni. Si tu veux voir, tu peux, tu n'es pas obligé, on a compris l'illustration. si tu as une petite soif, voilà. Donc voilà, c'était tout simplement ce que je voulais vous dire. Je voulais vraiment vous encourager. Merci à Jean. Alors, je voulais vraiment vous encourager sur ce dernier point. Il y a différents dons et il ne faut pas négliger les dons que nous avons de Dieu. Il n'y a pas de plus grand, de plus petit. Le plus grand don, c'est l'amour. Et ce qui est important, c'est de faire vraiment ce que Dieu nous demande de faire. Et voilà, donc je vais conclure dans la prière. Et si on peut conclure comme ça, je vous encourage vraiment à exercer le service, rechercher l'humilité. Pardonner, pour comment rechercher l'unité, l'humilité, ben, garder ce cœur pur, pardonner, efforcez-vous sans cesse, vraiment efforçons-nous, surveillons nos paroles. Qu'est-ce que j'ai dit encore? Est-ce que quelqu'un d'autre se rappelle de ce que j'ai dit? Je pense que j'ai tout dit. Et voilà, nous supporter aussi, donc nous supporter, aider nos frères pour garder cette unité. Ensuite, garder son cœur, ouais, j'ai dit, mais oui. Et donc voilà, et je pense, après, j'ai parlé des ministères. Pourquoi les ministères? Pourquoi cette diversité? Cette diversité, c'est pour l'unité. Et finalement, je pense que Dieu nous encourage à prendre chacun notre place, à prendre notre place dans l'amour, parce que l'amour est la chose la plus importante dans le service. Donc voilà, je vais prier pour ça. Seigneur, je te remets vraiment chacun d'entre nous, Seigneur, que ce message puisse toucher nos cœurs, puisse nous aider dans le développement de ton royaume, le développement de ton Église, Seigneur. Tu vois que ce soit les ministères qui vont prendre place dans cette Église, Seigneur, les services qui vont avoir lieu, que ce soit dans la fête de Noël, mais durant toutes les années qui viennent, Seigneur, qu'on puisse se rappeler que ça doit se faire dans l'amour, dans l'humilité, Seigneur. Que nous sommes encouragés à garder toujours cette unité entre nous.
Et je te prie vraiment que tu touches nos cœurs, Seigneur, que tu nous aides, parce que peut-être, voilà, on peut avoir des tempéraments différents, des ambitions différentes, et que dans tout ça, Seigneur, tu puisses nous aider à y voir clair, Seigneur, que tu puisses aider aux pasteurs, aux anciens de voir clair, et à nous-mêmes aussi de voir quelle est la place que tu veux que nous prenions, Seigneur. Peut-être que certains ne savent même pas quelle est la place qu'ils doivent prendre, Seigneur, mais alors que tu puisses diriger, que tu puisses leur montrer, Seigneur, que ceux qui peut-être résistent, Seigneur, tu puisses vraiment les encourager, leur montrer que c'est quelque chose de bon, que c'est pour le bon fonctionnement du corps, Seigneur, et je te prie vraiment pour tout ça, Seigneur, pour toutes ces personnes, pour chacun d'entre nous. Amen.